France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Ce n'était pas une simple voie de communication, mais un chemin processionnel à la gloire du grand seigneur Marduk, que tous servaient à Babylone, même Nabucodonosor. De gros cubes de pierre formaient la chaussée, et chaque pierre portait sur une face la marque suivante.
C'est moi, Nabucodonosor, roi de Babylone. Pour la procession du grand seigneur Marduk, j'ai pavé la route de Babylone avec des dalles de pierre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour, polymorphe et coruscant. Ne vous y trompez pas. Non, ce ne sont pas ici les héros jumeaux d'une bande dessinée enfantine, mais bien plutôt deux des nombreux adjectifs que l'imagination pourrait appliquer au fabuleux Nabucodonosor, le roi de Babylone. Nabucodonosor, que nous allons faire ressurgir ce matin. Fabuleux, oui, il l'est au sens propre. Tant les siècles qui ont suivi le sien, le VIe siècle avant notre ère, ont surchargé sa figure de colorations multiples, du plus brillant au plus sinistre. Depuis les louanges des turiféraires contemporains de son règne jusqu'aux exécrations de la Bible, depuis l'immortel Nabucco de Verdi jusqu'au conquérant des jeux vidéo, depuis le héros romantique jusqu'à la bouteille de 15 litres de vin ou de champagne qui est désignée par le nom de Nabucodonosor. J'en passe, que nous allons évoquer de plus près en ouvrant ce large éventail. Nous n'échapperons pas en passant au mythe de la tour de Babel qui s'est appuyée sur une construction prestigieuse du roi bâtisseur. Il est remarquable que le souverain lui-même ait adressé à Marduk, son dieu tutélaire, une prière explicite « Puisse mon nom être mentionné avec faveur dans l'avenir ». Eh bien, nous allons voir si cette émission va pouvoir ou non contribuer modestement à l'exaucer. Ce sera grâce à la science de Josette Elahi, mon invitée, qui publie l'une des toutes premières biographies du personnage. Elle est diplômée de latin, de grec, d'hébreu, d'araméen et d'acadien, et elle a enseigné notamment aux universités de Beyrouth et de Bagdad. Elle sait tout des sources parcellaires mais multiples qui permettent d'accéder à ces décennies de hautes et fragiles civilisations que les archéologues ont donné à mieux connaître à l'époque récente, notamment en déchiffrant l'écriture cunéiforme, longtemps mystérieuse, dont on usait en ces temps lointains. Nabucodonosor, nous voici. Et d'abord Hérodote, le grand historien grec qui écrit 150 ans après notre personnage.
La ville de Babylone, bâtie dans une immense plaine, forme un quadrilatère de 120 stades de côté, et donc de 480 stades de tour. Ceci pour ses dimensions. Pour le reste, elle est unique au monde. Tout d'abord, elle est entièrement entourée d'un immense fossé très profond, rempli d'eau, puis d'un mur de 50 coudées royales de large et de 200 de haut. Je crois qu'il vaut vraiment la peine d'expliquer comment fut bâti ce mur et comment on récupéra la terre des déblais. Avec la terre retirée au fur et à mesure des excavations, les Babyloniens façonnèrent des briques qu'ils firent cuire au four. Ces briques, cimentées à l'aide d'asphalte chaud, servirent à construire les parois du fossé, puis le mur lui-même, en y incorporant toutes les 30 couches, une couche de roseaux entrelacés. Au sommet des remparts, sur les rebords extérieurs, on édifia des tours à un seul étage, en vis-à-vis, séparées entre elles par un espace assez large pour laisser passer un char à 4 chevaux. Cette enceinte possède 100 portes, toutes en airain, y compris leurs linteaux et leurs huis. Cette enceinte entoure la ville comme une véritable cuirasse. Il en existe une autre à l'intérieur, aussi solide mais moins large que la première. Chaque moitié de la ville, de part et d'autre du fleuve, possède une sorte de place centrale fortifiée. Dans l'une, cette place est occupée par le palais royal. Au milieu du temple est bâtie une tour massive, d'un stade de long et de large, surmontée d'une autre tour, puis d'une autre, et ainsi de suite, jusqu'à 8 tours. Une rampe extérieure, en spirale, permet d'accéder au sommet. Au sommet de la dernière tour se dresse un grand temple, à l'intérieur duquel on peut voir un lit garni de couvertures magnifiques et une table en or. Il n'y a aucune statue. Personne n'a le droit de passer la nuit dans ce lieu, sauf la femme du pays, désignée chaque fois par le dieu, au dire des prêtres chaldéens qui sont les prêtres du dieu. Ces mêmes chaldéens affirment, ce que j'ai quelque peine à croire, que le dieu en personne descend dans ce temple et vient s'étendre sur ce lit.
Josette Elahi, bonjour.
Bonjour, Jean-Noël Jeannenet.
Vous citez notamment dans votre beau livre cette phrase de Nabuchodonosor lui-même, quand il dit qu'il décide de faire de Babylone sa capitale, « J'ai rendu Babylone prééminente dans tous les territoires que mon seigneur Marduk m'a spontanément confié, dans la totalité du monde habité. Dans son vénérable centre cultuel, j'ai établi la renommée du nom de Babylone. » Voilà qui est une ambition ample. Et d'abord, j'ai envie de vous demander comment on connaît ce texte, parce qu'au fond, vos sources, c'est essentiel.
Alors, les sources acadiennes sont extrêmement nombreuses. Mes collègues assyriologues ont passé toute leur vie à les déchiffrer. Alors, pour les inscriptions royales de Nabuchodonosor, on en a plus d'une centaine. Mais ensuite, on a toutes sortes de tablettes, d'hymnes, de lettres et des dizaines de milliers de textes. Alors, pour les sources sur Nabuchodonosor, maintenant, on va pouvoir profiter, je l'espère, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans les musées, de l'intelligence artificielle. Lorsqu'on donne un texte à l'intelligence artificielle, en quelques secondes, si le texte est bien présenté, si on a fait les bons prompts, le texte est traduit tout de suite.
Bonne nouvelle, nous avons besoin ces jours-ci d'être optimistes quant à l'intelligence artificielle. Merci d'y contribuer. Vous avez peut-être à nous dire aussi comment l'écriture cunéiforme a pu être très longtemps n'être pas comprise et comment on a pu la traduire.
Alors, l'écriture cunéiforme, il y a l'écriture cunéiforme acadienne, alors avec plusieurs dialectes, le babylonien étant le dernier, donc ici il s'agit du babylonien, au deuxième millénaire avant notre ère, et on a aussi le cunéiforme perse, il y a plusieurs types de cunéiformes. En tout cas, le déchiffrement du cunéiforme a été fait, considéré avoir été fait au milieu du 19e siècle par la société anglaise Royal Asiatic Society, qui a donné un texte du roi Tiglath-Phalazar Ier, qui a vécu au 11e siècle avant notre ère, à 4 savants, 3 anglais et 1 français, le français étant au pair.
On les a mis dans une pièce en interdisant de sortir avant.
Absolument, absolument. Séparément, donc, ils ont traduit. Ils sont arrivés à peu près au même résultat. Donc, on a considéré que l'acadien était traduit. Évidemment, c'est de l'acadien du deuxième millénaire. Le babylonien est un petit peu différent, mais on a ensuite réussi à déchiffrer les autres textes.
On peut rappeler que la Syrie a été le royaume, l'empire antérieur à celui que nous considérons ce matin.
Oui, alors oui, il a évolué parce qu'au début, l'empire babylonien était un empire assez limité, celui qu'avait conquis Nabopolassar, et c'est ensuite notre fameux Nabuchodonosor qui l'a conduit, qui l'a agrandi et qui l'a conduit à son apogée.
Donc. Contre la domination assyrienne.
Contre la domination assyrienne. C'est son père qui a combattu l'empire assyrien, qui l'a complètement détruit avec l'aide des Mèdes. Alors, s'il ne s'était pas allié aux Mèdes, je pense que l'Empire assyrien aurait été absorbé normalement par l'Empire babylonien. Parce que tout au long de l'histoire, il y a une alternance de domination de l'Assyrie sur la Babylonie ou de la Babylonie sur l'Assyrie.
Ça, c'est une uchronie, comme nous disons. Qu'est-ce qui se serait passé voilà. si... Je reste un instant, si vous le permettez, Josette et Laï, sur la question des sources. Notre ensemble, c'est évidemment celui que fournissent les historiens grec, nous avons déjà cité Hérodote, on pourrait citer aussi Mégasthène.
Oui, alors, bon, il y a aussi la chronique babylonienne, il faut quand même en dire deux mots, parce que ça, c'est une chronique qui est très, très stricte, elle est succincte, mais enfin, on a des informations très importantes sur les premières années de Nabucodonosor.
En cunéiforme, alors
Oui, en cunéiforme.
Donc accessible seulement depuis une centaine d'années.
Voilà. Alors, depuis 1956, c'est-à-dire tant qu'on ne connaissait pas les chroniques babyloniennes, qui racontent les exploits militaires de Nabucodonosor dans ses premières années, les 15 premières années, on aurait pensé que c'était un roi pacifique qui n'a jamais fait la guerre. Donc, ça, c'est important. Et puis, comme vous avez dit, il y a les sources extérieures. Évidemment, il y a la Bible. Hein. Il y a les différents livres, surtout Jérémie.
Daniel.
Et Daniel. Daniel qui est plus tardif.
Nous allons le retrouver, Daniel.
Et Jérémie qui est contemporain. Et puis, il y a les auteurs grecs et les auteurs plus tardifs. Alors, vous avez cité Hérodote, bien sûr. Alors, Hérodote, c'est un peu spécial, parce que lui ne parle pas de Nabucodonosor. Il a vu Babylone, il a décrit la Babylone de Nabucodonosor, mais les auteurs grecs sont un peu spéciaux. Hein. Ils considèrent que quelqu'un qui a construit une ville aussi extraordinaire ne peut pas être humain. Donc, il attribue la construction de Babylone à un personnage mythique, Sémiramis, enfin, bon, etc.
Mais La reine Sémiramis,
oui. Et c'est effectivement Mégasthène, historien grec du 4e, début du 3e siècle avant notre ère, qui a commencé à parler de Nabucodonosor et qui dit d'ailleurs qu'il était plus puissant qu'Héraclès, le fameux Héraclès.
Nous avons vu dans le texte d'Hérodote l'importance de l'appareil de défense de la ville, magnifique. Oui. Nabucodonosor se définit souvent lui-même, ou vous le définissez, comme d'abord un roi bâtisseur, plus qu'un roi conquérant. Expliquez-nous ça.
Alors, le roi bâtisseur, le passage d'Hérodote, il est en partie authentique, parce qu'il a vu, Babylone, mais il n'a pas eu accès à tout. Il a fait des erreurs. Donc, il n'a pas tout vu. Et puis, les Grecs ont tendance, pour les chiffres, à se tromper un petit peu, à arrondir les chiffres. Au total, le périmètre de Babylone, à l'époque de Nabucodonosor, l'enceinte, donc la troisième enceinte extérieure, faisait à peu près 11 kilomètres. Et la partie habitée, l'intérieur de Babylone, couvrait environ 1000 hectares, d'après les estimations, ce qui est déjà considérable.
Combien d'habitants? On a une idée, 1 million?
C'est difficile d'établir un chiffre. Moins d'un million, certainement. Enfin, bon, je ne sais pas, peut-être, je m'avance, mais entre 100 000 et 200, 300 000, c'est difficile à dire. On ne peut pas évaluer parce qu'on n'a pas fouillé la totalité de Babylone. Donc, il y a énormément de choses encore à découvrir à Babylone.
Il y a un trait qui frappe quand on vous lit, Josette et Laï, c'est que c'est un souverain qui est plus préoccupé de sa capitale que de la conquête. Et pourtant, cette capitale domine ce qu'on a appelé le croissant fertile. Je voudrais que vous nous disiez géographiquement quelle était l'ampleur de la domination de notre Nabucodonosor.
Alors, Nabucodonosor, lorsqu'il a reçu des mains de son père, Nabopolassar, l'Empire, puisque c'est son père qui l'a fondé en 626, avant notre ère, il a proclamé l'indépendance de Babylone et il a commencé peu à peu à combattre l'Empire assyrien et à le vaincre.
Pardon, il accède en fait en 605, c'est-à-dire à l'aube du 6e siècle.
Oui, voilà. Alors, Nabucodonosor, lorsqu'il accède au pouvoir, l'empire que lui a transmis son père est quand même assez limité. Il couvre la Mésopotamie. La Mésopotamie, tout le monde sait, ça vient du grec entre les deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate. C'est tout, parce que comme il a vaincu l'empire assyrien avec l'alliance des Mèdes, ils se sont ensuite partagés les dépouilles de l'empire assyrien. Donc les Mèdes ont gardé le plateau iranien, le Zagros, le nord de la Syrie, et les Égyptiens occupés, ont occupé à ce moment-là le Proche-Orient jusqu'à l'Euphrate. Donc, ce dont a hérité Nabucodonosor, c'est quand même assez limité.
Alors, au moment de la domination de Nabucodonosor...
Oui, c'est le croissant fertile.
Ce croissant fertile, oui. C'est quoi?
Alors, il va, disons, de la côte levantine, du Sinaï, pas de l'Égypte, parce qu'il n'a pas conquis l'Égypte, mais du...
Le nord de la bande de Gaza, aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, la bande de Gaza, oui.
Très prospère à l'époque.
Voilà, très prospère. Dans le nord, la Syrie du Nord, jusqu'à la Syrie du Nord, une partie du sud de la Turquie, la Cilicie plane et la Cilicie trachée. Au nord, non, il ne s'étend pas au nord, parce que ce sont les Mèdes qui sont installés, comme ils sont alliés. Nabucodonosor n'est pas allé vers le nord. Vers l'est non plus, puisque ce sont les Mèdes, donc ils occupent le plateau iranien, ils sont alliés. Alors vers le bas, l'Empire descend jusqu'au golfe persique arabique, qui n'avait pas le même tracé que de nos jours. Le Tigre et l'Euphrate se jetaient séparément dans le golfe.
Les alluvions ont gagné depuis?
Voilà, les alluvions ont gagné et on a le Chott el Arab aujourd'hui, ça allait jusque-là. Alors, il y avait l'île de Dilmun que j'ai proposé d'identifier avec l'île de Failaka dans le Koweït. On a trouvé une inscription, palais de Nabucodonosor dans l'île de Failaka. Alors, dans le sud, c'est le désert syrien. Bon, alors, c'est assez flottant, hein, les limites dans le désert. Disons que ça longe plus ou moins l'Euphrate, ça ne descend pas très bas à ce moment-là.
Nabucodonosor, Josette Elahi, si fascinant, si fabuleux, vous arrivez à le voir, à le visionner comme historienne?
Oui, alors vous regarderez peut-être la première page de mon livre. C'est une reproduction d'après... une représentation du début du XXe siècle. Nabucodonosor, le physique... Bon, vous l'avez à peu près ici. Il est à peu près habillé comme les rois assyriens et comme le dernier roi de l'Empire babylonien, Nabonide, qui s'est fait représenter. Donc, on a une représentation qu'on connaît, qui est stéréotypée, mais qui est quand même assez précise. Hein. Il a une longue robe à manches courtes, il a par-dessus un manteau à franges. Il a en principe un bonnet pointu avec un ruban qui flotte à l'arrière. Il a beaucoup de bijoux, il a des bracelets de poignets, de bras également, et il a une coiffure très apprêtée, hein. C'est vraiment très sophistiqué, c'est-à-dire il a une chevelure longue et bouclée, et une longue barbe aussi, avec des boucles très très soignées. Alors ça c'est pour l'apparence physique. Le personnage, le caractère, c'est autre chose. Alors évidemment, lui, il ne se voit que des qualités, c'est le roi juste, courageux, enfin toutes les qualités possibles. Moi, je le vois d'après ses actes. Je dirais que c'est un personnage assez complexe, étrange. D'abord, très très pieux, je crois que c'est cela qui le guide essentiellement. Toutes ses actions sont guidées par sa piété envers le dieu, le grand dieu de Babylone, Marduk. D'autre part, on pourrait dire aussi qu'il s'occupe de son peuple, hein, c'est un berger, protecteur, il s'occupe de son peuple, mais son peuple c'est seulement le peuple du cœur de l'Empire, c'est-à-dire Babylone et la Babylonie. Tout le reste de l'Empire, ça ne l'intéresse pas, sauf pour en récolter des richesses. Donc je dirais aussi qu'il est sans doute misogyne, il m'apparaît comme misogyne. De toute façon, les femmes à ce moment-là n'ont pas de place. C'est une société patriarcale. Mais lui, en particulier, ne s'adresse qu'aux dieux dans ses prières, sauf à la déesse Gula, qui était la déesse de la santé, parce qu'il s'inquiétait beaucoup sur sa santé. Alors, on trouve une phrase assez extraordinaire qu'on ne trouve que chez lui. « Je suis toujours en quête de vie ». Et il s'inquiète toujours de sa santé. Il fait bâtir des temples pour la déesse de la santé. Il lui demande... probablement, peut-être, était-il hypochondriaque.
Vous parlez de sa dévotion pour le grand roi Marduk. Écoutez donc cette ode qui lui est adressée, qui est une traduction du grand savant qui a été Jean Bottero, qui est lu ici par Edmond Ben Damou dans l'heure de vérité française de Macalifal en juillet 1957. Nabucodonosor s'adresse à son grand Dieu.
Ô valeureux Marduk, dont la colère est celle d'un cyclone, mais la faveur celle d'un père compatissant. Mon appel, personne ne l'a entendu, mon cri, personne n'y répond, et ce silence me torture. Seigneur puissant, Marduk, Dieu de miséricorde, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais failli, qui comprendra les voies de Dieu? Contre toi, j'ai commis un crime, j'ai transgressé les défenses de Dieu. Le péché de mon père, du père de mon père, de mes proches parents, qu'il ne s'approche pas, mais qu'il s'en aille au mauvais sort. Nabou, au cœur excellent, supprime mon péché. Grande reine, Tasmetum, supprime mon péché. Que ton cœur soit comme celui du père qui m'a engendré et de la mère qui m'a mise au monde. Alors, ô valeureux Marduk, je chanterai ta gloire.
En somme, Josette Elahie, la notion de péché est très prégnante bien avant le christianisme.
Oui, et je pense que ça doit concerner Babylone, parce que Babylone a été détruite une première fois par le roi assyrien Sennachérib, qui a détourné le cours de l'Euphrate pour noyer Babylone.
À quelle date ?
Je pense que c'est en 686 avant notre ère. Alors ça, c'était la destruction quasi totale. Il a fallu ensuite enlever tous les buissons, l'eau qui stagnait, c'était épouvantable. Les Babyloniens sont partis, les dieux ont été emportés, enfin il n'y avait presque plus rien à Babylone. Et une deuxième destruction qui a beaucoup aussi gêné, je pense, Nabucodonosor, c'est celle qui a eu lieu par Assurbanipal, le grand roi assyrien, lorsqu'il a engagé une guerre fratricide avec son frère, Nabuchodonosor, et qu'il a fini par le prendre Babylone et détruire Babylone et tuer également son frère. Donc Babylone était à reconstruire, et il y a toujours ce sentiment qu'on a commis un péché en détruisant Babylone. Ce sont d'abord les rois assyriens qui ont commencé à reconstruire Babylone, et ensuite les rois babyloniens, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une lignée continue, un petit peu continue. Hein.
Et dans les très prestigieuses constructions que Nabucodonosor réalise, il y a naturellement ses palais à lui, trois au moins, nous dit-on, et puis les temples eux-mêmes qui sont gorgés de richesses diverses.
Pour Babylone, d'après les inscriptions, je crois qu'il y en a 43. Les archéologues en ont fouillé à peine une dizaine. Alors, les temples importants, ce sont les deux grands temples de Marduk qui sont à côté des trois palais royaux. Il y a d'abord l'Esagil, qui est le grand temple de Marduk, et la Ziggurat, le second temple de Marduk, qui est à côté de l'Esagil. La Ziggurat, c'est un nom akkadien. Le temple s'appelait l'Etemenanki. Alors, en sumérien, c'est l'écriture antérieure, la civilisation sumérienne, c'est très intéressant parce que « et » ça signifie la maison ou le temple, « temen » c'est le socle, « an » c'est le ciel, et « ki » c'est le royaume souterrain, « etemenanki ». Donc, si vous voulez, c'est le temple qui fait le lien au milieu du cosmos entre le monde supérieur et le monde inférieur.
Alors, c'est peut-être ce moment, Josette Elahie, d'évoquer la tour de Babel, puisque cette ziggourate précisément est à l'origine, enfin le départ de ce mythe qui s'enracine dans la Babylone de Nabucodonosor. Rappelez-nous ce qu'il en est.
Oui, moi je dirais d'abord il y a des sources archéologiques. Que reste-t-il de l'Etemenanki, de cette ziggourate? Et il reste quand même le socle. Ça a été fouillé, même si le site de Babylone a été saccagé pendant les guerres récentes.
Et encore en 2003, oui, au moment de la guerre du Golfe. Oui.
Voilà, c'est ça. Mais il restait le socle. Donc on sait que la ziggourate avait 90 mètres de côté et qu'elle était construite avec un cœur de briques crues, parce qu'il n'y a pas de pierre en Irak, en Babylonie. Il y en a au nord, mais pas au sud. Et l'extérieur a été recouvert par un manteau de briques crues, avec, comme le dit Hérodote, des couches de roseaux. Alors, d'après les collègues, cette masse énorme, on a dit qu'elle pouvait pas s'élever très haut, et mes collègues ont dit 60 mètres, ça suffit. On vient de démontrer avec mon mari dans un article paru dans une revue assyriologique, qu'elle s'est levée en réalité à 90 mètres de haut. Comme c'est dit dans les sources de Nabucodonosor, on a aussi une stèle qui représente cette ziggourate, et avec, donc, elle a la même hauteur que le carré de la base. Voilà. Alors, c'est vrai que elle a été construite par toutes sortes de peuples qui venaient de différentes régions.
Alors, la source essentielle, c'est d'ailleurs brève,
oui.
C'est la Bible.
Oui, oui, c'est
alors,
la Bible.
Rappelez-nous le sens de ce que signifiait la tour de Babel, ce que Dieu a marqué.
Oui, alors évidemment, c'est très différent de ce qui était en réalité. La tour de Babel visait à atteindre le ciel, donc c'était une concurrence divine en quelque sorte.
Insolente.
Voilà, insolente. Donc Dieu a décidé de mélanger les langues des ouvriers qui la construisaient, donc ils ne pouvaient plus se comprendre et ils ne pouvaient plus continuer à la construire. C'est ça le mythe.
Pourquoi ce mythe est-il situé précisément à l'endroit que vous évoquez? On en a une idée à cause du caractère impressionnant de cette construction de Nabucodonosor?
Non, mais je pense que l'exil des Judéens à Babylone a fait entrer dans les... Parce que la Bible est née à Babylone, hein, selon mon collègue Thomas Römer, administrateur du Collège de France. La Bible est née à Babylone et ils ont emprunté la tour de Babel. Hein, ils l'ont inclus dans la Bible. Simplement, ça vient de là. Les Judéens qui étaient exilés à Babylone ont inclus... Dans leur construction de la Bible, hein, du Deutéronome, l'écrit sacerdotal, ils ont inclus des éléments de la religion mésopotamienne. Et d'autres éléments d'ailleurs, le calendrier, ils ont pris le calendrier babylonien, ils ont abandonné le calendrier lunaire, d'autres éléments comme ça. Donc ils ont été influencés, disons, par la culture mésopotamienne. Donc ça vient de là, ils ont inclus donc ces mythes-là.
Écoutez donc cette lecture d'un second texte d'Hérodote, puisque vous avez dit que les femmes n'étaient pas très bien traitées dans cette civilisation. Ce n'était d'ailleurs pas uniquement cette civilisation qui se comportait de la sorte. Il évoque la vente aux enchères des femmes dans les chemins de la connaissance de Jacques Lacarrière, qui était un grand spécialiste de la Grèce antique, sur France Culture, le 26 mars 1981. Et puis vous nous direz à partir d'aujourd'hui si vous pensez que Hérodote a dit vrai, ou s'il y avait une espèce de fascination légèrement érotique qu'il pouvait diriger vers cette cité 150 ans après.
De toutes les lois babyloniennes, la plus sensée, à mon avis, est la suivante, qui est aussi en vigueur, m'a-t-on dit, chez les Vénètes d'Illyrie. Dans chaque village, une fois par an, on réunit toutes les jeunes filles en âge d'être mariées et on les conduit sur une place où tous les hommes se rassemblent de leur côté. On procède alors à une véritable vente aux enchères. On commence par la plus belle, qui se lève, pour être bien vue de tous, qu'un crieur met en vente. Une fois vendue, très chère, on passe à la suivante, et ainsi de suite par ordre de séduction. Ces filles ne sont vendues que comme épouses. Les Babyloniens aisés surenchérissent entre eux pour avoir les plus jolies, tandis que les pauvres, qui en général n'ont guère le loisir de se soucier d'esthétique, reçoivent au besoin de l'argent pour emmener les plus laides. Car le crieur les met tout en vente, même les plus disgraciés, même les infirmes et les estropiés, qu'il laisse en général aux moins exigeants, entendons par là ceux qui exigent le moins d'argent pour emmener leur enchère. L'argent qu'on donne aux pauvres provient de la vente des plus belles, et ce sont elles, en somme, qui aident à placer et à marier les plus laides. Marier sa fille à qui l'on veut est absolument interdit en Babylonie, pas plus qu'un acheteur n'a le droit d'emmener chez lui une fille sans garantir qu'il en fera sa femme. Si en fin de compte elle ne fait pas l'affaire, l'argent doit être rendu. Tout le monde peut participer à ces enchères, même les gens des villages environnants. Malheureusement, depuis que Babylone a été conquise et que toutes ces familles se sont trouvées ruinées, cette excellente coutume a pratiquement disparu. Et les pères de famille, pour éviter que leurs filles ne soient maltraitées ou achetées par des étrangers, ont dû se résoudre à les prostituer.
Les prostituées, Josette et Laï, fantasme, réalité
Je pense que, enfin, on n'a pas d'éléments précis là-dessus. Il faut dire que, enfin, ce que racontait Hérodote, moi, je n'ai pas connaissance de sources acadiennes qui en parlent. Maintenant, c'était une société patriarcale. Les femmes n'ont pas de place. Les rois assyriens, comme les rois babyloniens, avaient des harems. Alors, on ne connaît pas exactement le harem de Nabucodonosor, mais il en avait certainement un. Les femmes si elles étaient mariées, elles dépendaient évidemment de leur mari. Si les femmes célibataires dépendaient de leur frère ou de leur père. Mais il y a quand même quelques femmes qui, elles n'avaient pas d'instruction, elles n'avaient pas le droit de suivre l'instruction. Il y en a qui aidaient leur mari, tout de même, dans leur métier. Et il y a quelques femmes qui ont échappé à ce lot. Par exemple, une fille de Nabucodonosor qui s'appelait Kashaya. Alors celle-là, c'était la petite fille du roi Nabopolassar, c'était la fille du roi Nabucodonosor. Elle s'est mariée avec le roi babylonien Nériglissar et c'était la mère du roi Labashi-Marduk. Donc elle avait un rôle très important.
On était en famille.
Voilà, en famille, mais elle avait des propriétés, elle était très riche, elle gérait des propriétés. Mais ça, ce sont des cas particuliers, des cas isolés. Autrement, la femme était traitée comme une éternelle mineure.
À propos de mémoire, vous montrez, Josette et Laïc, votre Nabucodonosor a été un des premiers rois archéologues. Ça nous intéresse du point de vue de la gestion du passé par les pouvoirs politiques.
Oui, ça c'est très intéressant, parce que ça vient un petit peu de l'idéologie des Babyloniens. Ils considéraient que la perfection ne se trouvait qu'aux origines, du monde. Donc le monde se dégradait peu à peu et il fallait essayer de retarder l'œuvre de cette dégradation.
Sombre théorie.
Oui, sombre théorie. Donc d'où cela ? Alors il y avait les sages, les ancêtres qui étaient magnifiques, etc. Donc pour retarder cette dégradation, il fallait restaurer et rebâtir les bâtiments principaux, les temples, les palais, etc. C'était les rois qui devaient se charger de cela, les temples surtout. Alors il fallait surtout que les temples soient bâtis à l'emplacement du temple précédent. Ça, c'était une règle qu'il devait absolument suivre. Alors, pour retrouver l'emplacement du temple précédent, ce n'était pas toujours facile. Je ne sais pas si vous connaissez l'Irak. Il y a beaucoup de sable, de tempêtes de sable, en particulier à Larsa. Si bien que les archéologues s'amusaient à appeler Larsa l'arsable. Donc, le sable recouvrait tout et il était difficile de retrouver les structures antérieures.
D'où une prospérité de l'industrie du faux. Ça m'a frappé.
Mais d'abord l'archéologie. Non, mais d'abord l'archéologie.
Je parle du temps de Nabucodonosor.
Oui, oui, oui. Mais d'abord l'archéologie, parce que il fallait, ça vient de là, si vous voulez. Il fallait retrouver les structures des temples antérieurs. Donc, Nabucodonosor a fait faire des fouilles. Et le roi suivant aussi, Nabonide, sera aussi un roi archéologue.
S'inscrire dans la longue durée, c'est une obsession.
Oui, dans la longue durée. Alors, on trouvait des tablettes, évidemment, des rois antérieurs. Donc, il fallait traduire les tablettes des rois antérieurs. Et il y avait une sorte de stratigraphie, comme dans l'archéologie moderne, mais très sommaire. C'était le roi qui avait vécu tant de temps avant et qui disait... Donc, on retrouvait les structures et Nabucodonosor faisait reconstruire le temple au même emplacement, et il mettait sa tablette de fondation à côté des tablettes des rois antérieurs. C'est de là que vient cette appellation de roi archéologue, effectivement.
Vous dites qu'on ne fait pas l'économie d'un certain nombre de faux.
Oui, alors il s'intéressait beaucoup à l'Antiquité. Il y avait des faux, oui. On faisait quelquefois des faux, de fausses tablettes, pour légitimer, par exemple, l'argent que des prêtres réclamaient pour arranger le temple, rebâtir le temple, par exemple.
Ça annonce déjà quelque peu les faux que l'Église fera au Moyen-Âge. Nous allons en parler dans une émission prochaine. Les faux du Moyen-Âge.
Écoutez, les faux, moi qui suis spécialiste de l'Antiquité, j'ai toujours vu qu'il y avait des faux. On essaie de copier, surtout dans le domaine des monnaies d'ailleurs, les faux antiques, mais les fausses tablettes à l'époque babylonienne pour revendiquer une demande, par exemple. Et cet engouement aussi pour l'Antiquité, à leur époque, les poussait à collectionner. C'était aussi des collectionneurs de tablettes antiques, de pièces antiques. Le musée, le principe du musée qui a été posé aussi par Nabucodonosor, puisque ces belles pièces, il les a exposées dans ses palais. Il y avait des salles spéciales.
Mais d'autre part, on prévoit aussi qu'on doit rester pour l'avenir en laissant une trace majeure. C'est le moment des stèles dont vous parlez aussi, ces stèles que fait bâtir Nabucodonosor. Et bien, outre les inscriptions, je vois que Saddam Hussein avait dans son palais installé une de ces briques inscrites pour dire qu'on allait de Nabucodonosor à lui.
Alors oui, Saddam Hussein a fait construire dans le site de Babylone, qu'il a essayé de promouvoir, il voulait en faire le centre du monde archéologique, il organisait des colloques, il avait fait des bâtiments pour les archéologues, et lui s'était fait construire un palais dans le site de Babylone, sur le modèle du palais de Nabucodonosor, enfin du grand palais, du palais nord, et il avait fait inscrire sur les briques du palais son nom, comme Nabucodonosor faisait inscrire sur les briques de son palais Nabucodonosor, roi de Babylone, Saddam Hussein avait fait inscrire en arabe son nom également. Donc il avait copié Nabucodonosor, oui.
Il y a aussi cet aspect qui le rend pour nous attachant, Nabucodonosor, c'est un roi lettré.
Oui, c'était un roi lettré qui avait passé 5 ans, pendant qu'il était prince héritier, dans la maison, le bitre d'outil, la maison de succession, où il apprenait l'écriture, la lecture, et puis toutes sortes de sciences. Il a passé 5 ans. Il savait traduire des inscriptions, il savait les écrire, et son dieu, après Marduk, son dieu préféré, c'était quand même Nabu, le dieu des scribes.
Le fils de
Marduk. Donc, il s'intéressait beaucoup au savoir. Il avait fait de Babylone la capitale du savoir. Il avait invité des savants, des chercheurs. Alors, il y avait aussi le côté divination, mais il y a aussi le côté recherche des mathématiciens, des astronomes, des astrologues aussi, hein, parce que les astrologues, c'est là que sont nés les horoscopes actuels. Hein. Mais l'astronomie était, il a développé l'astronomie. Hein, c'était assez magnifique. Il y avait un observatoire en haut de la ziggourate, la tour de Babel, hein, parce que comme le terrain était plat, il fallait pouvoir observer de haut. Et il y avait l'observation, l'astronomie observationnelle, ils observaient les planètes, et l'astronomie mathématique, c'est-à-dire ils calculaient les distances des planètes de façon assez précise. Le grec très connu, Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, s'est beaucoup inspiré des travaux qui ont été faits sous Nabucodonosor.
Les scribes, d'ailleurs, avaient un rôle important de ce
Alors, fait. Oui, les scribes avaient un rôle très important, mais ça ne veut pas dire que les gens ne savaient pas lire et écrire. Hein. Les hommes d'affaires, les marchands, l'écriture commence à se diffuser assez bien, mais les scribes, c'était tout de même l'écriture traditionnelle. Alors, il y avait les scribes de base, c'était un petit peu des écrivains publics, et puis les scribes savants qui faisaient de longues études dans différents domaines. Et il y avait un domaine privilégié tout de même à l'époque, c'était la divination. Savoir, les Babyloniens voulaient savoir ce qu'il allait se passer pour pouvoir adapter leur conduite. Il y avait plusieurs systèmes, oui, les aruspices, comme ça a été utilisé plus tard, qui lisaient dans les entrailles des animaux, mais ça c'était très coûteux. Alors il y avait surtout la divination par les rêves. Les devins interprétaient même les rêves qu'on avait oubliés au réveil. C'est ce qu'il disait, il retrouvait les rêves qu'on avait oubliés. Puis il y avait toutes sortes de divinations par l'huile sur les taches d'huile sur l'eau, enfin toutes sortes de méthodes de divination. Et les Babyloniens y croyaient très fort, et le roi évidemment ne pouvait prendre une décision sans consulter ses devins.
Ils ont encore des descendants, je pense.
Oui, je pense qu'il y a des gouvernants actuels ou récents qui avaient aussi leur cartomancienne.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Racontez-nous la fin de Babylone, après naturellement la mort de Nabucodonosor, qui survient en 562, après environ 40 ans de règne.
Oui, 43 ans de règne. Alors on est quand même loin de la fin encore de l'Empire babylonien.
Sous les coups de l'Empire perse.
Oui, mais on a quand même plusieurs rois qui succèdent à Nabucodonosor. Alors, le grand problème, c'est que l'empire qu'a bâti Nabucodonosor est un empire qui est immense, énorme, qui n'a pas été très bien organisé, parce que lui n'est pas un bon administrateur, et il n'a pas fait attention aux structures, c'est-à-dire il n'a pas fait des réformes, il n'a pas réorganisé Nabucodonosor, ce n'est pas un réformateur. Hein,
l'obsession, Dieu oui. et le bâtisseur, et la construction de oui. tout ce qui témoignera de la gloire de
voilà,
son règne.
Voilà, c'est ça. Mais à part ça, il n'a pas fait de réforme, il ne s'est pas occupé de gérer structurellement l'Empire. Alors, tant qu'il y avait un roi fort, l'Empire tenait debout. Ça ne posait pas de problème, parce qu'il régnait un petit peu par la crainte, et par la séduction aussi. Mais quand il a disparu, son fils n'était pas du tout à la hauteur. Hein. Amel-Marduk, qui sera Merodach-Baladan dans la Bible. Il y a une série de rois qui ont fait peu à peu dégrader l'Empire babylonien. Sauf peut-être Néréglissar, mais enfin, ça s'est dégradé peu à peu. Il n'y avait pas de bon roi organisateur, ni de roi fort pour le faire tenir. Donc, il allait vers sa perte.
Je voudrais maintenant que nous évoquions Josette Elahi, que nous évoquions la postérité de Nabucodonosor. Il arrive que des grands personnages soient interprétés de façon très variée, dans l'ordre du positif ou du négatif. Dans le cas de Nabucodonosor, c'est vraiment éclatant. Il y a un bon et un méchant Nabucodonosor de siècle en siècle qui mérite d'être restitué. Et d'abord, au Moyen-Âge et au temps de la Renaissance, quel est le personnage que l'on décrit ?
Peut-être qu'il faut partir de la légende, parce qu'elle s'est formée dans l'Antiquité, la légende, la double légende de Nabucodonosor.
La Bible joue un rôle essentiel, évidemment.
Évidemment. Alors, c'est la légende noire de Nabucodonosor, que l'on doit à Jérémie, mais surtout à Daniel. Daniel a fait de Nabucodonosor, qu'il mélange avec Nabonide, d'ailleurs. Il mélange les deux.
Vous parlez du livre de Daniel dans la Bible.
Du livre de Daniel dans la Bible, qui a été rédigé à l'époque hellénistique. Mais il mélange Nabucodonosor et le dernier roi de l'Empire babylonien, Nabonide, qui s'est retiré pendant 10 ans dans le désert. Donc, et il considère que Nabucodonosor était un fou qui s'est retiré loin de Babylone dans le désert, ce qui est faux. Hein.
C'est aspect animalier, quasiment.
Aspect animalier, avec des griffes qui ont poussé, bon, etc. Donc,
ça partait mal.
Ça partait mal. Et pourquoi? Le point de départ, c'est que Nabucodonosor a conquis Jérusalem suite à la révolte de son roi, Yoakim, qu'il a déporté les Judéens à Babylone.
Il a conquis deux fois Jérusalem.
Il a conquis deux fois Jérusalem. Il a mis en place après Yehoiakim. C'est lui que Nabucodonosor a déporté à Babylone, avec les Judéens, les rivières de Babylone. Il faut savoir quand même que ce n'était pas quelque chose d'unique, puisqu'il faisait la même chose avec tous les vassaux rebelles, et que la déportation de peuples dans l'Antiquité était monnaie courante avec les Hittites, enfin un petit peu tous les empires.
Mais tous n'ont pas eu la capacité d'influence qu'a pu avoir la Bible ensuite. Jusqu'au XVIIIe siècle, la prégnance du christianisme continue de faire de Nabucodonosor un personnage assez sombre, et puis les choses commencent d'évoluer au XVIIIe siècle.
Oui, au XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières, Babylone était la capitale du luxe, mais aussi du savoir, avec une très grande concentration de savants que Nabucodonosor avait réunis à Babylone. Donc c'était aussi la cité du savoir, la cité des savants, et il était très, très développé dans plusieurs domaines. Il faut savoir quand même que toutes les sciences babyloniennes, les mathématiques, la physique, etc., venaient à l'origine, était la continuation de la science sumérienne qui a été transmise aux Assyriens puis aux Babyloniens. C'est quand même une continuité.
Et c'est salué par les philosophes en particulier du XVIIIe siècle.
Absolument, absolument. Et Babylone apparaissait au XVIIIe siècle comme une magnifique capitale, non pas une capitale de la débauche, de la luxure, mais comme une capitale du savoir.
Alors qu'à l'époque moderne antérieure, il demeure assez mal vu. Je pense à cette pièce de Robert Garnier, oui. Les Juifs, qui est antérieure à la grande période du théâtre classique,
oui.
Mais que naguère évoquait encore les manuels de classe. Je pense à la guerre des Michards.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et le thème des Juifs reste marqué par une hostilité, et vu naturellement du côté de Jérusalem.
Absolument. Donc Nabucodonosor était très mal vu, et Babylone était la capitale de la luxure. Elle avait une réputation sulfureuse.
Vous faites un sort aussi à Blake.
Ah oui, William Blake, qui a fait une estampe qui a eu beaucoup de retentissement, c'est Nabucodonosor transformé en bête, hein, qui est à quatre pattes, qui a des cheveux longs, des poils partout, des ongles comme des griffes. Ça vient de Daniel, tout cela.
Évidemment, le drame qu'ont vécu les Judéens à l'époque continue de nourrir, au XIXe siècle, tout un romantisme considérant Nabucodonosor, mais un romantisme ambivalent. Il y a le côté...
Oui, il y a le côté positif. C'est-à-dire que la légende noire a été très entretenue par les rabbins, toute la tradition juive, alors que la légende dorée, la légende positive, n'a pas été entretenue, mais elle a survécu tout de même par le XVIIIe siècle, comme vous l'avez dit, et par le romantisme aussi. Il y a dans le romantisme, le Nabucodonosor, c'est un petit peu Hernani, c'est le héros maudit. Il y a toute une faveur envers Nabucodonosor qui s'est développée aussi à l'époque des romantiques.
Naturellement, Victor Hugo en parle. J'ai cherché les citations de Nabucodonosor dans son œuvre, dans la Légende des siècles en particulier. Peut-être ai-je mal cherché, mais je n'en ai trouvé qu'une, d'un poème, très beau poème, qui s'appelle « Les lions ». Il s'agit là encore de Daniel dans la fosse aux lions. Le tyran l'y inscrit, l'y met, et les lions refusent, comme on sait, de s'en prendre à Daniel, aussi affamés qu'ils soient eux-mêmes, les lions. C'est plutôt négatif, naturellement, tout en étant solennel. De la croix aussi peint Nabucodonosor. Si on visite l'Assemblée nationale aujourd'hui et qu'on lève le nez, on vous verra Nabucodonosor.
Bibliothèque, hein, je crois, de l'Assemblée nationale.
Oui, au plafond.
Ce sont les Juifs exilés au bord des rivières de Babylone qui inspirent beaucoup les peintres, en particulier de la croix. Donc, qui est représenté là, et puis dans beaucoup d'autres représentations des peintres, évidemment, c'est l'exil des Judéens qui a beaucoup inspiré. Nabucodonosor, il est moins représenté. C'est surtout Babylone et l'exil. C'est la légende noire qui continue.
On retrouve encore, en somme, dans l'opéra illustrissime de Verdi, Nabucco, qui remonte à 1842, et où le cœur des esclaves est un morceau infiniment connu et qui va d'ailleurs devenir l'hymne de beaucoup des révoltés de 1848. Alors, je ne vais pas vous faire entendre tout le cœur des esclaves, mais tout de même, il faut que nous l'ayons dans l'oreille. Cet extrait de Nabucco, de Verdi, provient d'une représentation publique, c'est l'acte 3, le 4 octobre 1976, au studio 104 de la maison de Radio France, sous la direction du maître Fernando Lozano. Josette et Laï, clairement, il s'agit là des Autrichiens opprimant l'Italie.
Absolument. Il y a des éléments d'histoire qui sont exacts, mais on ne peut pas suivre tous les personnages que Verdi a inventés, les filles de Nabucco, etc. Il y a juste une petite base historique et tout le reste, évidemment, c'est de la légende.
Il y a un autre personnage attachant qui a parlé de Nabucodonosor, c'est Béranger, le grand chansonnier auquel nous avions naguère consacré une émission, et qui est l'auteur d'une chanson qui s'appelle Nabucodonosor, naturellement polémique contre le roi Louis XVIII. On est en 1821, et qui lui vaut de la prison et des amendes. Cette chanson porte ceci: puiser dans la Bible est de mode, prenons-y le sujet d'une ode. Je chante un roi devenu bœuf, Louis XVIII, c'est pas très aimable, je chante un roi devenu bœuf, aux anciens le trait par une œuf, surtout la cour en fut aux anges, répétant sur les harpes d'or, gloire à Nabucodonosor. Vous êtes un peu comme Béranger, Josette et Laïve aussi, vous dites gloire à Nabucodonosor ?
Non, absolument pas. C'est un personnage ambigu et il y a un double aspect. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'histoire, le personnage historique sous la légende et voir comment la légende a été construite.
Mais elle continue, cette légende, au XXe siècle. Et c'est très intéressant de voir alors, la dispersion des références à Nabucodonosor. Donnez-nous-en, s'il vous plaît, un petit aperçu.
2600 ans plus tard, c'est quand même assez extraordinaire. En fait, c'est ce qu'il voulait au départ. Quand il demandait à Marduk que mon nom soit connu par les générations futures, il a réussi. C'était peut-être son principal objectif.
Hein. Il savait qu'il viendrait une bouteille de 15 litres de vin.
Je ne sais pas si ça l'aurait gêné, je n'en sais rien. Parce qu'il y avait quand même de fameux banquets chez lui, donc pourquoi pas. Et il appréciait aussi le vin, hein, le vin du Zagros, etc. Bon, au XXe siècle, jusqu'à nos jours, il y a des choses un petit peu curieuses. Par exemple, les noms de famille donnés à des personnes de la Réunion, des anciens esclaves.
Il n'y en a pas en métropole.
Il n'y en a pas en métropole. Et en revanche, on avait donné le nom de Nabucodonosor à des Réunionnais. Et ensuite, ce nom a été utilisé un petit peu partout, hein, pour des commerces, pour des hôtels, pour des sociétés, pour un supercalculateur.
Supercalculateur, ça c'est impressionnant, vous parliez d'intelligence artificielle
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, Nabucodonosor. Donc, le nom a été utilisé comme symbole. Je suis sûr que les gens qui utilisaient le nom de Nabucodonosor ne connaissaient pas nécessairement la véritable histoire.
Vous n'avez pas encore lu, ça viendra.
Ce qui était resté, c'était le souvenir d'un personnage puissant, un petit peu surhumain, exotique aussi, ça c'est intéressant, une nuance d'exotisme, avec des effets bénéfiques plutôt que maléfiques. Enfin, c'est ce qui domine à ce moment-là.
On le voit au cinéma, on le voit
cinéma.
Matrix.
Matrix, qui a été...
Dites-nous les liens entre Matrix et Nabucodonosor.
En fait, c'est l'histoire du monde inversé. Ce sont les machines qui dominent, mais on ne s'en rend pas compte. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Neo. C'est un clin d'œil à Nemo de Jules Verne. Et qui conduit un vaisseau qui s'appelle Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le nom anglais de Nabucodonosor. Le mot vient directement de Nabucodonosor.
Qui voulait dire quoi, d'ailleurs, rappelez-nous.
Alors, Nabucodonosor, ça signifie Nabu, c'est le dieu, protège ma descendance.
Nabu, c'est le fils de...
Alors, c'est le fils de Marduk, voilà.
Pour que je comprenne bien la famille.
Oui, la famille. Et Sarpanitou, c'était sa femme.
Donc, Matrix.
Alors, Matrix, on revient à Matrix. Donc, ce Néo, cet ingénieur Néo, il a un vaisseau spatial et il essaie de se battre contre cette dominance des machines. Hein. Voilà. Donc, ça a eu énormément de succès et beaucoup de retentissement. Alors, il y a des versets qui sont inscrits, d'ailleurs, sur le vaisseau. Enfin, on mélange un petit peu avec l'histoire de Jésus. Évidemment, toute cette descendance de Nabucodonosor est assez confuse. Mais l'important, c'est le personnage qu'on a conservé.
Actif aussi dans les jeux vidéo, vous nous montrez cela.
Oui, alors dans les jeux vidéo également, le film, les jeux vidéo, je crois qu'il y a eu 16 volumes. Et ensuite, alors les BD, hein, ça passe dans les BD, ça passe partout. Hein. C'est des BD comme Nabucodinosaur, et ensuite les aventures à peu près historiques de Nabucodonosor. C'est un sympathique dinosaure qui est très intelligent.
Ah oui, on change, c'est un mot valise.
Oui, c'est un mot valise, voilà.
Nabucodonosor,
voilà. Et les aventures à peu près historiques de Nabucodonosor. Donc, c'est un gentil dinosaure qui est sympathique, qui est un grand inventeur, mais qui est incompris de son époque, voilà.
Donc, cette mémoire évolue plutôt vers le positif, mais pas partout. Du côté de la judéité, il en va autrement.
Oui, alors la légende noire a été relayée constamment et jusqu'à aujourd'hui, hein, ceux qui s'intéressent à la Bible, il y a une fête Tisha B'Av qui commémore la déportation des Juifs à Babylone. C'est le 10 août, hein, c'est le nom de Tisha B'Av. Donc elle est toujours commémorée, cette légende noire, par autour de la Bible. Mais la légende positive domine, a réussi, bien qu'elle n'ait pas été toujours bien reliée, elle a réussi à survivre et elle reste dans nos mémoires collectives, même si on ne sait pas très bien qui était Nabucodonosor.
Oh, on le sait mieux après vous avoir lu, Josette Elahi. Vous pensez que finalement, après cette émission, Nabucodonosor tombera de quel côté?
Je ne sais pas, on verra. Il avait des devins et il interrogeait l'avenir à travers ses devins. C'était les ancêtres de Nostradamus. Il demandait conseil à ses devins, il lui disait ce qu'il fallait faire.
Eh bien, il est peut-être penché sur votre épaule. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être venu à l'occasion de la parution de ce livre important, Josette Elahi, qui s'appelle Nabucodonosor, roi de Babylone. Entre histoire et légende, c'est bien là que nous avons situé notre conversation. Paru tout récemment chez Perrin en 2025.
Merci pour votre invitation.
Le plaisir était de mon côté. J'ajoute que pour un regard plus large, plus ouvert encore sur l'ensemble de cette période, vous avez donné un ouvrage qui s'intitule « L'Empire Assyrien » en 21 et un autre qui s'appelle « L'Empire Babylonien » en 2024. Josette Elahi. Je voudrais également signaler l'ouvrage de Daniel Arnaud, qui est paru chez Fayard en 2004, Nabucodonosor II, roi de Babylone, insiste surtout sur les aspects religieux du personnage et de sa politique.
Le parallèle, c'est oui, l'aspect religieux chez Nabucodonosor et chez Nabonide, voilà.
Nabonide, c'est-à-dire
le dernier roi babylonien qui s'est réfugié pendant 10 ans dans le désert, qui a vécu 10 ans dans le désert. C'est un roi très mystérieux, énigmatique.
Francis Johannes, un autre savant renommé, a donné un ouvrage sur la chute de Babylone qui nous conduit plus loin dans le temps, jusqu'au 12 octobre 539 avant Jésus-Christ, lorsque les Perses en ont triomphé. C'est un ouvrage paru chez Talendier en 2022 et repris récemment dans la belle collection Texto en 2024. Vous trouverez une bibliographie plus complète, avec notamment d'autres de vos écrits, Josette Elahi, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission pendant un très long laps de temps, peut-être équivalent à celui qui nous sépare de Nabucodonosor.
By the rivers of Babylon, where we sat down, there we prayed when we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we prayed when we remember Zion. Carried us away captivity requires from us a song. Tell me, how can we sing a Lord's song in strength?
Et tandis qu'en arrière-fond nous écoutons By the Rivers of Babylon, une chanson fameuse qui est ici interprétée par Liz McComb, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Mathieu Leroy à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Nous t'es qu'à songer, Zion, en Borine et à Babylone, là nous t'es mon Dieu, venu on nous dans la misère pour nous bévrer la lumière. Même si qu'en nous mauvais, elle fait en nous qu'elle veut.